Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est mort le 23 mars 2018. Cela ne vous dit plus rien? Et si je vous redis Arnaud Beltrame? Oui, il y a déjà plus de 3 ans mourait celui que beaucoup ont salué comme un héros, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon qui fait parler beaucoup de lui ces derniers temps, déclarant « Il a remis le monde humain dans l'ordre, parce que la vie d'un mort, c'est aussi sa mémoire. » Un autre homme signale un peu partout la France pour parler de lui et de ce qui animait le cœur et l'âme d'Arnaud Beltrame, un religieux de notre sud-ouest, afin que la clarté de son geste nous réveille. Arnaud Beltrame, ce héros français, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité le père Jean-Baptiste. Vous êtes chanoine régulier à l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce dans l'Aude. Bonjour mon père.
Bonjour Emmanuel, bonjour merci, à tous les auditeurs.
Merci d'avoir fait un détour par nos studios. Alors c'est vrai que j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, et puis un jour la porte s'est ouverte. Je sais donc que vous sillonnez une partie de la France pour donner des conférences. Souvent le titre de vos conférences c'est Arnaud Beltrame, leçon d'un geste, si je ne me trompe pas. Et vous avez donné donc la semaine dernière une conférence au Christ-Roi avec ce sous-titre témoignage sur sa vie spirituelle. Conférence Arnaud Beltrame, gendarme catholique. Alors on va faire avec vous plus connaissance avec cet homme, avec sa vie spirituelle, qui peut-être n'est pas connue de tous. Ma première question serait la suivante. 3 ans après, c'est vrai qu'Arnaud Beltrame, ça dit encore quelque chose aux gens, mais c'est déjà loin. Est-ce que vous vous sentez un peu investi d'une mission de mettre en perspective ou de faire vivre la mémoire de cet homme et de son geste?
Alors, c'est déjà loin et pourtant, par rapport à beaucoup d'événements de 2018 et beaucoup de personnages ayant émergé à cette époque-là, je suis très impressionné du fait qu'énormément de gens, si ce n'est tous ceux qui m'interrogent sur la question ou à qui j'en parle, se souviennent de lui. Vous avez 350 villes de France qui ont aujourd'hui des rues, places ou écoles Colonel Beltrame, en particulier une à Toulouse. Semble-t-il, aucun Français n'a suscité un tel enthousiasme depuis la libération, depuis 1945. Et de fait, je suis souvent interrogé sur la question, donc mes conférences sont des réponses et pas des initiatives de ma part, par des publics très, très divers. Et effectivement, je ne me sens pas investi d'une mission au sens où je prendrais le premier pas pour m'imposer dans des studios de radio ou dans des salles de conférences pour parler. Mais il m'a semblé important d'apporter un complément à ce qui n'avait pas été dit, en particulier sur la dimension spirituelle de sa quête, son chemin qui me semble d'une grande beauté et d'une grande pertinence pour éclairer nos propres chemins aujourd'hui.
Alors il faut le dire, et puis on le découvrira au long de cette émission, que vous le connaissiez bien, puisque vous l'aviez accompagné, en l'occurrence, vous l'accompagnez vers le mariage, c'est ça, hein, avec celle qui devait devenir son épouse. Vous peut-être vous situer par rapport à lui au début de l'émission aussi?
Absolument. Donc j'ai eu le redoutable honneur d'être le prêtre le plus proche de lui les 2 dernières années de sa vie. Il me l'avait demandé que je le prépare au mariage après une rencontre tout à fait inattendue le jour même de son mariage civil, où il se marie le matin et il décide l'après-midi de visiter un monument historique avec les invités pour se détendre un tout petit peu. Et ce monument historique choisi, c'était l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce dans l'Aude, où j'ai la joie d'être prêtre et religieux. Et donc sur le parcours des visites, on se rencontre, on sympathise, mais de façon totalement inattendue. Et de fil en aiguille, assez rapidement, il va demander à ce que je le prépare en mariage. Et ça a été effectivement la préparation en mariage la plus bouleversante de ma vie.
Alors, j'aime bien qu'on commence par le début de la vie d'un homme. Peut-être que ça agace certains auditeurs, mais en tout cas, aujourd'hui, personne ne s'en est plaint, parce qu'on est toujours le fils de quelqu'un, on hérite toujours de quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la famille d'Arnaud Beltrame? Alors, il est né Arnaud Jean-Georges Beltrame est né donc le 18 avril 1973 à Étampes dans l'Essonne. De quel milieu venait-il? Est-ce que c'était un milieu? On a souvent parlé de son grand amour de la France, qui aujourd'hui c'est une chose qui peut surprendre. Était-ce le cas? À quoi ressemblait quel était un peu son biotope?
Alors, je connais maintenant bien sa maman et j'ai échangé avec ses frères. Donc il avait 2 frères. Il est né dans une famille relativement simple, avec une vraie tradition militaire. Son père, son grand-père ont servi la France et il était en particulier fasciné par les faits d'armes de son grand-père pendant la guerre d'Indochine et, me semble-t-il, même pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un homme qui est très attaché à la Bretagne, puisque Étampes sera évidemment son lieu de naissance, vous l'avez rappelé, mais il va beaucoup vivre dans le Morbihan après le divorce de ses parents en particulier. Et à Trédion, où sa maman habite toujours, il avait des racines très fortes. Et donc tout l'imaginaire celtique et breton et chrétien l'a un petit peu bercé. Il est dans une famille donc relativement simple, avec des traditions militaires, mais...
Une famille chrétienne, croyante?
Très peu. On peut pas difficilement être breton sans être baptisé à la naissance, en 1973 encore, mais un baptême un petit peu de convenance sociale, aucune éducation religieuse. Donc pas d'hostilité violente de la part de sa maman, avec qui j'ai échangé et qui de temps en temps prie. Et c'est une femme très courageuse que j'ai rencontrée. Mais aucune éducation religieuse. Et il dira lui-même qu'il a vécu comme un athée jusqu'à ses 25 ans. Et donc c'est...
Alors avant qu'on parle de sa vie spirituelle, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de sa carrière. Parce que, alors ça, probablement que certains l'ont lu dans les journaux. Mais c'était un gendarme, il était lieutenant-colonel de gendarmerie. Donc il avait quand même fait Saint-Cyr, dont il était sorti major, c'est ça, en 2001.
Alors pas tout à fait, puisqu'il y a probablement des militaires qui nous écoutent, ou des familles de militaires.
Ah oui, comme quoi il faut vérifier
donc,
ce que disent les journalistes.
Certains journalistes sont effectivement Saint-Cyr, plus exactement c'est l'EMIA, donc aux écoles de Couette-Quidan. Il a raté Saint-Cyr. Pour une raison assez mystérieuse, Arnaud était un homme qui avait des fulgurances intellectuelles qui l'ont rendu major de deux écoles prestigieuses, mais parfois il ratait des oraux ou l'inverse. Et donc il a bizarrement raté Saint-Cyr, comme plus tard, bizarrement, il ratera l'école de guerre, ses professeurs ne comprenant pas.
L'école de guerre, c'est un peu, entre guillemets, l'ENA de l'armée.
Donc les meilleurs, pour accéder au grade d'officier supérieur, passent effectivement l'école de guerre. Et donc il rentre à la fin des années 90 à l'EMIA, l'école militaire interarmes, qui est la petite porte pour devenir officier. Il va en sortir major, donc montrant que son brio. Et plus impressionnant encore, un an plus tard, il va sortir major de l'EOGN, l'école des officiers de gendarmerie nationale. Et c'est assez rigolo parce que l'EOGN est parfois l'école privilégiée des meilleurs de Saint-Cyr. Donc il a raté Saint-Cyr, mais il a intégré l'EOGN et il a doublé du coup beaucoup de Saint-Cyriens dans cette école prestigieuse. Il va ensuite intégrer, après des tests...
J'aimerais juste qu'on s'arrête sur un, parce qu'on ne pourra pas faire toute sa carrière, parce qu'elle est quand même assez fournie, mais il a été un moment, il a fait partie de l'escadron parachutiste d'intervention de la gendarmerie nationale, c'est ça ?
C'est ça.
On appelle ça le...
L'EPIGN.
L'EPIGN. Et ça, vous en parlez, vous dites que ça l'a marqué, ça a pu jouer...
Ça l'a beaucoup marqué, parce que c'est un escadron d'élite... qui est aujourd'hui intégré au GIGN, et les tests physiques sont aussi durs que ceux du GIGN. Donc il était chuteur opérationnel, c'est-à-dire largage en très haute altitude, déploiement du parachutisme, souvent de nuit, du parachute à basse altitude, donc vous imaginez la gestion du stress, la forme physique. Physiquement, c'était vraiment un athlète, et intellectuellement, quelqu'un de fort. Tous ses camarades et officiers subalternes que j'ai rencontrés m'ont confirmé que c'était un crack physiquement, et souvent le meilleur. En athlétisme, et avec toujours un moral d'acier. Et quand il vivait un échec, comme je l'ai dit tout à l'heure dans certains concours...
Combien de fois il a raté Saint-Cyr et l'école de guerre ?
Alors, de mémoire, il a raté 3 fois Saint-Cyr et 2 fois l'école de guerre. Ouais. Et donc, évidemment, psychologiquement, c'était des gifles et des humiliations très dures, mais à chaque fois, il rebondissait. Et ça impressionnait beaucoup ses camarades. Il avait une résilience, une capacité de se relever de ses chutes, de ses échecs qui manifestaient une force de caractère peu commune.
Alors, j'ai vu autre chose, mais je ne sais pas si c'est la chose la plus importante à noter pour sa carrière, mais je vous laisse ajouter autre chose. Il a aussi donc été commandant de compagnie de sécurité au sein de la garde républicaine.
Oui.
Ça vaut le coup de le souligner ? C'est quoi ? C'est honorifique ? C'est reconnaissance de bons et loyaux services déjà ou...
Non, parce qu'il y a effectivement une protection importante faite pour évidemment le chef de l'État, mais aussi des ministres. Et donc c'est un commandement qui est délicat et qui est fait en général, qui est donné à des hommes de confiance. et qui, en général, honore effectivement non seulement la loyauté, mais aussi l'efficacité tactique. De fait, il a eu cette mission après un fait d'éclat qui lui a valu la Croix de la Valeur militaire, après une exfiltration en Irak particulièrement délicate.
Voilà, c'est un homme donc qui était assez brillant, vous l'avez dit. Il a aussi, j'ai vu qu'il avait eu un diplôme, un MBA, donc en intelligence économique. Quand est arrivé cet attentat dont on va parler maintenant, le 23 mars 2018, il était donc officier adjoint au commandement du groupement de gendarmerie départementale de l'Aude, c'est ça ?
C'est ça, donc ce qu'on appelle C3 dans le jargon de la gendarmerie. Et vu son expérience à l'EPIGN, à l'Irak, en Irak, il était un petit peu le spécialiste de l'antiterrorisme. Et c'est une des raisons pour laquelle il arrive tout de suite sur les lieux de l'attentat du 23 mars.
Alors, si vous deviez nous re-raconter ce qui s'est passé le 23 mars, pas tout dans le détail, mais peut-être vu d'Arnaud Beltrame, puisque depuis le temps, vous avez peut-être probablement eu le temps de vous refaire un peu le film de la journée. Vous dites que c'est autour de 9h30, c'est ça que tout commence ?
C'est ça, tout commence à Carcassonne même. Un terroriste islamiste radicalisé depuis peu, que les Français ont totalement oublié. C'est d'ailleurs, une journaliste me le remarquait un jour, habituellement dans les attentats, on est obsédé par l'horreur du terroriste et son itinéraire et son nom, et on oublie un petit peu tout le reste. Ici, c'est exactement l'inverse. Dans l'épisode du 23 mars, c'est ça qui rend cet épisode si singulier et qui a été si sidérant au sens psychologique du terme, c'est qu'on a complètement éclipsé le terroriste et on s'est concentré sur la beauté d'un geste. Donc on a oublié l'horreur de l'islamiste et pour voir la beauté de cet officier chrétien. J'insiste bien sur les deux qualificatifs, officier et chrétien. Donc vers 10h, Redouane Lagdim, donc le nom de cet islamiste, vole une voiture, tue le passager, est armé d'un couteau et d'un pistolet, il a des explosifs.
Donc on est à Trèbes, c'est ça, hein ?
Il commence à Carcassonne.
Carcassonne
et il se rend à Trèbes, où il va tuer un chef boucher dans ce Super U, donc en banlieue de Carcassonne, et menaçant tous les autres après ce meurtre, évidemment. Puis vous imaginez, dans une boucherie, tuer un boucher, le sang est encore plus atroce. Et donc la tétanie, la terreur, les cris dans le Super U, il prend en joue une caissière, une certaine Julie, une jeune maman, et il la menace de la tuer et de faire tout sauter s'il n'intervient pas la libération de certains terroristes, je crois, du Bataclan ou du Parc des Princes, qui étaient alors en prison. Et 10 minutes après le début de cette épopée folle, ce qui permet de rendre hommage aux forces de sécurité, parce que 10 minutes seulement après, Arnaud Beltrame est sur place avec les forces du PSIG, donc le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, pour sécuriser et voir comment le neutraliser.
Et là, donc, quel est le rôle d'Arnaud Beltrame, en fait ? C'est lui qui mène un peu les opérations ?
Donc, au début, c'est l'adjudant-chef du PSIG qui est directement en charge. Arnaud analyse la situation, il voit qu'elle est complètement bloquée, puisqu'on a un terroriste qu'on n'a pas réussi à maîtriser, qui a déjà tué 4 personnes et qui tient en otage une jeune femme. Et donc, normalement, la procédure habituelle dans la gendarmerie, si j'ai bien compris tout ce que les colonels et généraux de gendarmerie m'ont expliqué, j'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup, le PSIG sécurise le périmètre, évidemment interdiction à toutes les voitures, à tous les civils de s'approcher, parce qu'on ne sait pas s'il est tout seul ou s'il y en a 10 qui sont cachés en embuscade, s'il y a 1, 2, 3 ou 10 bombes qui sont là, on sécurise, on attend l'antenne GIGN locale, en l'occurrence c'est l'antenne GIGN de Toulouse, qui est arrivée le plus vite possible, et l'antenne GIGN prépare l'assaut, que seule le GIGN national de Satory, donc à côté de Versailles, est habilité à lancer. Donc aussitôt, vous vous doutez que les hélicoptères du GIGN national foncent, et là, ils vont arriver un petit peu trop tard, mais donc le GIGN se positionne, et pendant ce temps, Beltrame est le plus haut gradé, surveille les opérations, les coordonne, et là, le rapport du GIGN qui a fuité, et donc que j'ai eu la chance de pouvoir consulter, montre qu'après avoir analysé la situation, il dit à l'adjudant qui pour l'instant avait conduit la sécurisation, Je prends le commandement, sortez tous, je vais me livrer comme otage. Réaction de l'adjudant, mais mon colonel, vous n'avez pas de gilet pare-balles. Taisez-vous, je vais essayer de sauver tout le monde. Sortez tous, je vais me livrer en otage. Et donc là, il négocie en direct avec le terroriste en lui demandant s'il accepte de se substituer à Julie, cette pauvre caissière. Et je vous dirai, si vous voulez, ce qui a dû se passer dans sa tête pendant ces quelques secondes. Je pense qu'il y a eu la conjonction de trois facteurs.
On en parlera plus tard.
Mais on en parlera plus tard. Et donc, il se substitue vers les 10 heures du matin à Julie. Il rentre à main nue et les bras levés dans la salle des coffres, qui est une salle sans vidéosurveillance, sans possibilité d'écoute. Et là, on assiste à impuissant, à un huis clos d'environ 2h30-3h, où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc je devine ce qui, de façon très probable, a dû se passer. Je crois qu'Arnaud a dû tout essayer de la négociation, c'était un tchatcheur exceptionnel, qu'il a dû aussi mesurer qu'il avait quand même devant lui un pignouf qui pouvait probablement réussir à neutraliser à main nue, même si ce terroriste avait une arme blanche et un pistolet. Et donc, au bout des 3 heures de dialogue,
allez-y, continue.
Le terroriste lance une sourate. Très probablement, Arnaud a dû se dire que la négociation était finie et qu'il allait lui tirer dessus comme un lapin.
Et là,
Arnaud lui saute dessus. Et là, on entend vaguement au téléphone qu'Arnaud avait mis en écoute dans la salle un corps à corps. Des coups de feu, donc le terroriste lui tire dessus. Les impacts de balles sont des impacts de protection. Entre les coups de feu et l'entrée du GIGN, il s'est passé 10 minutes, 10 interminables minutes. Vous imaginez le corps à corps d'un homme qui a un couteau contre un homme qui n'a rien pour se défendre que ses bras blessés par les coups de feu. Et quand le GIGN réussit à pénétrer, il tue le terroriste. Arnaud est partiellement égorgé. Pas complètement, comme certains journalistes l'ont dit. Il est transporté inconscient et dans un état extrêmement grave à l'hôpital de Carcassonne. J'arrive à le rejoindre à 20h pour lui donner les derniers sacrements. Les médecins ont fait un travail admirable, mais évidemment sur un cas un petit peu désespéré. Et je lui donne les derniers sacrements à 20h, 21h à peu près, et la bénédiction apostolique, et il va décéder, malgré tous les soins et toutes les prières, à 5h du matin, donc au petit matin du 24 mars 2018, créant une émotion internationale.
Présence. Emmanuel Pella.
Arnaud Beltrame, ce héros français, c'est le thème pour rappel de l'émission Vivante Église de ce matin avec le père Jean-Baptiste. Vous êtes prêtre et chanoine régulier à l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce dans l'Aude. Et donc vous donnez des conférences pour ceux qui par hasard nous rejoignent, enfin de plus en plus de conférences donc sur Arnaud Beltrame. Et il y en avait une donc à Toulouse la semaine dernière, organisée conjointement par Passeurs d'Espérance et les AFC sur le thème Gendarme catholique témoignage sur sa vie spirituelle et leçon de son geste du 23 mars 2018. Après nous avoir brièvement raconté sa vie, hein, très brièvement évidemment, parce que j'imagine qu'il y aurait de quoi pour vous faire un livre et nous une série d'émissions, mais pour l'instant on n'a que 7 heures, j'aimerais que vous nous parliez du retentissement mondial de son geste. Vous avez eu la gentillesse de me faire suivre je sais pas, c'est un PowerPoint ou équivalent dans lequel vous mettez quelques citations. Donc il y a Donald Trump, je sais pas si c'est le premier qu'il faudrait citer, qui a dit la chose suivante: la France honore un grand héros, l'officier est mort après avoir courageusement échangé sa vie avec un otage dans une attaque liée au groupe État islamique. Jean-Luc Mélenchon, que j'ai cité au début donc, de cette émission, Arnaud Beltrame a remis le monde humain dans l'ordre. Le pape François aussi qui a salué le geste héroïque. Vous qui étiez peut-être faisiez partie un peu des... Parce que les journalistes sont très forts pour pister et savoir qui connaît un homme. Ils sont très rapides. Vous avez peut-être dû faire face à cette avalanche. Ça venait du monde entier.
Oui, du monde entier. C'est tout à fait étonnant et pour moi qui ne savais pas ce que c'était qu'un buzz, parce qu'au début, le père abbé, pour me préserver, parce que je suis avant tout religieux et prêtre, et ma vocation n'était pas de passer mes journées devant un micro ou une caméra, m'a permis seulement d'écrire un texte qui a du coup, comme les journalistes n'avaient que ça à se mettre sous la dent, répercuté vraiment dans le monde entier. Dès le lendemain, le New York Times le publiait, me demandant si j'étais bien l'auteur. Et donc j'ai assisté vraiment dans les sollicitations ou dans les courriers reçus d'hommages, de reconnaissance ou de questions, à des lettres en vrac dans mes souvenirs du Canada, de l'Italie, de différents dom-toms, et donc vraiment un officier supérieur de police allemande était venu aussi me voir et me poser des questions, voyant en Arnaud à nouveau Saint-Maximien Kolb, etc.
Du côté des chefs d'État, en fait, dans le monde entier, on a salué l'héroïcité de ce geste.
À ma connaissance, oui, et le président de la République, Emmanuel Macron, a fait un hommage d'une très grande beauté. Son discours est évidemment disponible sur Internet. On sait l'auteur, Sylvain Faure, si ma mémoire est bonne, mais le président l'a assumé. Et donc, dans la cour carrée des Invalides, c'était un texte d'une très grande beauté. Monseigneur de Romanet, l'évêque aux armées, me disait qu'il avait senti comme un souffle de transcendance parcourir toute l'Assemblée sur le parcours de cet hommage national qui a un petit peu stupéfié tout le monde quand le président a pris cette décision. Je voyais...
Hommage aussi à vous lire, relativement exceptionnel, puisque c'est la garde républicaine qui a conduit son cercueil du Panthéon jusqu'aux Invalides, et ça, c'est semble-t-il presque jamais arrivé, c'est ça ?
Absolument. Le président de la République ayant pris aussi une initiative tout à fait nouvelle dans l'histoire de la Légion d'honneur, puisqu'il avait déjà le mérite et d'autres décorations, mais pas la Légion d'honneur. Il l'a élevé directement au grade de commandeur, sans passer par le grade de chevalier, ce qui est unique depuis 200 ans. Et donc cette émotion a clairement été nationale et partiellement internationale. Les médias en ont énormément parlé pendant très très longtemps, et de fait, 3 ans après, on s'en souvient encore.
Alors, j'aimerais...
Puisque les inaugurations continuent, c'est ça qui est étonnant.
Mais qu'est-ce qui vous permet justement, c'est ça, de voir entre guillemets les répliques de son geste? C'est justement que un certain nombre de lieux en France portent son nom.
Alors voilà, 350 villes de France, depuis des grandes villes jusqu'à des tout petits villages, des lieux évidemment liés à son passage, comme Trèbes ou Ferrals, là où travaille Marielle Beltrame, ou Trédion, là où vit sa maman, mais aussi des lieux qui ont a priori n'ont aucun rapport. Même au Sénégal, un haras de chevaux donc a choisi d'être honoré du nom d'Arnaud Beltrame. Donc même à l'étranger, et ça s'est dit pendant le confinement, des pays étrangers ont souhaité ce patronage pour magnifier un geste d'honneur qui pouvait nous inspirer aujourd'hui.
Est-ce que ça vous a surpris, ces hommages, on va dire, venant de partout? C'est vrai, quand on lit Jean-Luc Mélenchon disant « Arnaud Beltrame a remis le monde humain dans l'ordre », tout de suite, ça rend Jean-Luc Mélenchon plus sympathique.
Oui, tout à fait. Je pense que, justement, ce côté transversal, au travers de tous les partis politiques et de toutes les races, montre qu'il y a quelque chose d'universel qu'on avait peut-être un petit peu oublié, et que le pape François rappelait 4 jours avant l'attentat, sans mesurer évidemment qu'un officier le vivrait. Lorsque le pape François écrivait dans Gaudete et Exultate numéro 104, c'est l'exhortation sur la sainteté que le Saint-Père publiait pour la Saint-Joseph 2018, donc le 19 mars, et l'attentat était le 23, le critère d'évaluation de notre vie est avant tout ce que nous avons fait pour les autres. Et je pense que dans une société nombriliste, hédoniste, consumériste, ce geste de don absolu a absolument fasciné. En plus, il y a quelque chose de sidérant, c'est que ça s'est fait dans un supermarché. Donc une sorte de symbole du consumérisme contemporain. Et donc, comme l'antinomie absolue du consumérisme et l'égoïsme, dans ce don de soi pour sauver un inconnu.
Il faut dire aussi, vous ne l'avez pas dit jusque-là, ça s'est su que Arnaud Beltrame allait se marier, il était marié civilement, et donc il s'est offert, probablement on imagine qu'il était quand même conscient que 2 semaines après, c'est quoi, c'est combien de temps après il devait passer?
Alors, il était fiancé religieusement, marié civilement, mais effectivement je le préparais au mariage qui aurait dû intervenir le 9 juin, donc 2 mois et demi après l'attentat. Et 2 jours et demi avant ce geste, il m'avait envoyé sa déclaration d'intention, que les auditeurs, surtout les plus jeunes, connaissent bien, et les prêtres. Donc ce texte obligatoire où les fiancés doivent affirmer leur conviction et leur adhésion à la doctrine catholique du mariage. Et c'était un texte pétillant d'amour, de tendresse pour Marielle. Bref, il n'allait pas se suicider 2 jours et demi après. Et donc, je crois qu'il a mesuré le risque fou qu'il prenait, mais que pour lui, il fallait absolument qu'il intervienne parce que ce dont il était témoin était insupportable, entre autres parce que c'était une femme en danger.
Alors, j'aimerais que vous parliez maintenant de la fécondité spirituelle de son geste. Ça sera peut-être une manière aussi de parler de son chemin de foi, à vous de voir. Ça m'a surpris. Alors ça, c'est ce que j'ai appris de plus dans tout ce que j'ai réussi à parcourir et ce que vous m'avez fourni. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prient Arnaud Beltrame, c'est ça?
Oui.
Et semble-t-il, il y a déjà des fruits étonnants, voire même des miracles, non?
Oui. Donc ça commence.
Alors, j'imagine qu'il faut en parler avec circonscription.
Voilà, mais... avec beaucoup de prudence, puisqu'il ne s'agit pas pour moi de canoniser Arnaud Beltrame. Ce sera à l'Église, évidemment, de se prononcer par la voix très probablement de l'évêque aux armées, puisqu'il était militaire, mais aussi de l'évêque de Carcassonne et Narbonne, puisque c'est dans ce diocèse qui est le mien que ce geste a eu lieu. Et donc pour l'instant, Monseigneur de Romanet et Monseigneur Planet attendent, ne serait-ce que parce que canoniquement, l'Église impose un délai de 5 ans. Nous sommes actuellement à 3 ans, et puis il faudra voir s'il y a une réputation de sainteté, s'il y a des grâces, ou si c'est un horrible pécheur, franc-maçon, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Bref, il va falloir dégrossir un petit peu tout ça. Ce que je vois déjà, c'est le nombre de rues, de places, d'écoles, je le disais à l'instant, on est déjà à 350 et ça continue. Le nombre de livres aussi. On a déjà 5 bons livres, une bande dessinée qui est en cours, un film de Steven Gunnell qui va paraître bientôt. Bref, une fécondité qui est toujours plus diffusée. Et puis lettres...
Là, vous parlez d'un miracle attesté le 11 avril 2021. Alors, vous mettez quand même un point d'interrogation. Guérison immédiate d'un cancer de la lymphe en phase terminale. Vous pouvez nous raconter cette histoire ou...
Alors c'est tout récent, puisque c'est en avril dernier que je reçois une lettre d'un médecin breton me disant « Écoutez mon père, voilà mon témoignage de médecin, je suis depuis peu à la retraite, j'étais généraliste, j'ai un très bon ami qui m'annonçait qu'il avait un cancer de la lymphe en phase terminale, que les médecins du CHU de Rennes arrêtaient le traitement puisqu'il n'y avait plus aucun espoir et qu'il lui donnait à peu près 8 jours à vivre. » Et ce médecin me dit, puisque je l'ai contacté après sa lettre pour avoir un échange un petit peu direct et précis, que ne sachant pas trop pourquoi, il avait invoqué le colonel Beltrame pour lui, pour cet ami. Et pour cet ami, du coup, en fin de vie. Qu'il le recroise quelques jours plus tard dans la rue, cet homme ayant vécu une rémission absolument totale.
Il parle dans son courrier, pardon, dont vous m'avez donné une copie, guérison brutale, inexpliquée, totale et durable.
Voilà. Et donc, durable un mois après, et de fait inédite totalement pour un cancer de la lymphe en phase terminale, je n'ai pas encore eu accès au dossier médical. On va attendre de voir tout ça. Vous savez, la très grande prudence de l'Église, mais pour l'instant, ça a complètement sidéré ce médecin et réjouit évidemment le malade, qui est, semble-t-il, stupéfait aussi les médecins accompagnant ce malade. On a d'autres grâces obtenues, dont parfois des témoignages apparaissent sur la tombe d'Arnaud.
Qui est enterré où, pour rappel ?
Pardon ?
Qui est enterré où, pour rappel ?
Donc, il est enterré à Ferrals. C'est un petit village à côté de Lézignan-Corbières, tout près de l'entrée d'autoroute, au cimetière de Ferrals. C'est là qu'il habitait et qu'habite toujours Marielle. Donc au cimetière de Ferrals.
C'est dans l'Aude ?
Dans l'Aude, tout à fait. Donc, l'attentat a eu lieu à Trèbes, mais il est enterré dans la ville, le petit village de son domicile. Et donc, sa tombe est l'objet d'un passage régulier, c'est pas un pèlerinage quotidien, mais de personnes du monde entier qui viennent se recueillir, quelles que soient leurs convictions religieuses. Donc évidemment, il y a certains cathos, évidemment, il y a des gendarmes, évidemment, il y a des officiers ou des élèves officiers qui veulent son intercession. Mais voilà. Et de fait, Monseigneur de Romanet a permis que soit diffusée une prière qui s'adresse au Christ, pas à Arnaud Beltrame encore, au Christ, mais évoquant beaucoup de détails de la vie d'Arnaud Beltrame dans cette prière, et il lui a donné son imprimatur en mai 2019. Donc déjà une approbation ecclésiastique et récente d'une prière qui pourrait nous inspirer pour prier Arnaud. Et il y a d'autres grâces assez étonnantes dont je suis le témoin, et les gens peuvent utiliser donc cette formule qui peut être diffusée facilement pour l'invoquer. Il y a une petite vidéo où les gens pourront la retrouver facilement, qui se trouve sur le site de l'évêché aux armées.
On le donnera à la fin si ça vous embête pas. Je voulais juste rappeler une chose aussi qu'on n'a pas dite, et après vous allez parler un petit peu de vous. C'est que donc son geste a eu lieu le vendredi qui précède donc la Semaine Sainte. Pour les chrétiens, évidemment, un certain nombre de personnes ont entendu parler d'Arnaud Beltrame aussi en chair à l'occasion de la Semaine Sainte qui a suivi. Et alors, je vous lance là-dessus puisque vous m'avez dit que c'est un témoignage maintenant qui est rendu public, et merci de nous le confier. Il vous est arrivé aussi à vous, semble-t-il, quelque chose d'un peu particulier qui vous fait dire qu'il y a derrière la mort de cet homme, un enjeu spirituel fort.
Alors effectivement, je suis un pauvre pêcheur qui se confesse toutes les semaines, et j'ai vécu ce jour-là quelque chose qui ne m'est jamais arrivé avant et jamais arrivé après. Bref, je ne suis pas un saint qui voit la Sainte Vierge sur un petit nuage rose tous les matins, et je pense avoir vraiment les pieds sur terre. Mais au moment où je priais l'office de nonne avec mes frères, donc...
L'office de nonne, c'est après le déjeuner. Hein.
Voilà, donc il était à peu près 13h50 ce jour-là. Je savais seulement, comme tous les Français, qu'il y avait un attentat qui venait de commencer à quelques kilomètres de l'abbaye. Et le père prieur nous avait demandé de prier, mais aucun nom n'était encore public. Et au moment où je prie le psaume 88 avec mes frères, 88 ou 89 suivant les numérotations, où le psaume prophétise les souffrances du Christ, jeté à terre, couvert de sang et dominé par ses ennemis, je vois Arnaud couvert de sang.
C'est-à-dire, vous avez comme une image?
Comme un flash. Qui a duré un instant. Et j'ai absolument pas compris le rapport et fait le lien avec l'attentat. Par contre, j'ai énormément prié pour lui à ce moment-là. Et c'était un des premiers vendredis de carême, donc j'ai choisi, juste après cet office, de faire un chemin de croix en priant énormément pour Arnaud. Et ce n'est que tard le soir, devant les journalistes qui m'interrogeaient de BFM TV, France 2, TF1, que leur demandant le déroulé de la journée, j'ai découvert que ce flash correspondait exactement au moment où Arnaud était blessé au cou par le terroriste. Et donc c'est comme si j'avais reçu un hypercute à ce moment-là, parce que je me suis rendu compte que cette parole de Dieu, 1000 ans avant Jésus-Christ, hein, puisque les psaumes ont grosso modo été écrits et inspirés par le Saint-Esprit il y a 3000 ans, donc 1000 ans avant le Seigneur, prophétisait 1000 ans avant les souffrances du Christ, et qu'un homme vivant 2000 ans plus tard, comme une configuration au Christ, donnant sa vie pour sauver, en l'occurrence, une malheureuse otage, avait vécu une expression, une application de ce psaume 88. Autrement dit, j'ai vécu en un éclair, pour le dire en un mot, combien la parole de Dieu était vivante. Et ça a changé, ça a dilaté complètement mon amour de la parole de Dieu, de la Sainte Écriture, et en particulier du psaume 88 et de l'office divin. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Arnaud Beltrame, ce héros français, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce lundi, avec donc comme invité Père Jean-Baptiste, pour ceux qui nous rejoindraient, prêtre, et chanoine régulier à l'abbaye Sainte-Marie de la Grâce qui est située dans l'Aude. Vous nous avez dit, donc, qu'Arnaud Beltrame, il faut peut-être commencer par ça dans cette dernière partie. Vous allez nous dire, vous, quelle on va dire, leçon spirituelle, puisque je crois que c'est même... Oui, c'est le titre de votre conférence que vous avez donnée à Toulouse et que vous donnez un peu partout en France. Témoignage sur sa vie spirituelle et leçon de son geste du 23 mars 2018. Avant de parler de ces leçons spirituelles, donc Arnaud Beltrame était lui-même un converti, c'est ça ? Assez tardivement, je me suis remis un papier sous les yeux, mais qu'évidemment je ne retrouve pas. C'est toujours comme ça. Il a été confirmé, c'est ça, à l'âge de 33 ans ?
Absolument. Même 36 ans, il était jeune commandant. Il a eu une quête qui a duré quelques années, à partir de ses 25 ans. Donc une petite dizaine d'années où il s'est posé la question de l'existence de Dieu, de l'au-delà, de la transcendance, en cherchant un peu dans tous les sens. Donc le chamanisme, l'occultisme, le spiritisme, les médecines énergétiques un peu bidons ou franchement ésotériques. C'est l'époque aussi où il s'intéresse à la franc-maçonnerie. Et puis, petit à petit, il va découvrir que c'est dans le Christ et dans l'Église catholique qu'est la plénitude de la vérité, et demander la première communion et la confirmation. À 36 ans, il est à Nanterre à l'époque, il est commandant de gendarmerie et il va faire 2 ans de catéchuménat, même s'il est déjà baptisé, pour recevoir ces 2 beaux sacrements de l'initiation.
Alors, vous m'avez fait suivre, il y a vraiment des très belles prières, des choses toutes simples. C'est parfois des prières de gendarmes, pardon pour les gendarmes qui nous écoutent, avec tout le grand respect que j'ai pour eux, mais j'ai explicité ma petite remarque. C'est simple, c'est clair, c'est net, ça va droit au but. Hein, et on sent qu'il y met tout ce qu'il est. Voilà, je laisse le Christ travailler en moi, je demande et j'accepte sans relâche l'Esprit Saint et la venue de Dieu dans ma vie. Ô Seigneur, roi du monde, éclaire-moi, guide-moi, parle-moi. J'ai foi en toi et j'attends mon heure qui est ton heure, Seigneur. Ça, c'était une prière de 2008. Vous qui avez eu le temps, dans le silence de votre abbaye, de lire et de relire ce compagnonnage avec cet homme et son geste. Donc, quelle leçon de son geste vous donnez ? Vous en avez 3, semble-t-il. Vous les connaissez par cœur. Alors, je vous laisse nous dire.
Alors, ce sont des
leçons... Je vous guiderai, rassurez-vous.
Mais... C'est gentil. Ce sont des leçons qui m'ont beaucoup aidé moi-même, je dois l'avouer. Et ce sont des leçons qui me semblent tout à fait pertinentes et justes, puisqu'il ne s'agit pas de créer un mythe Beltrame et de raconter n'importe quoi. Et j'ai soumis vraiment toutes mes réflexions à Marielle, qui était inévitablement celle qui le connaissait le plus.
Marielle qui était son épouse.
Voilà, civil. Déjà sur le plan civil et sa fiancée sur le plan religieux, et que j'allais marier normalement 2 mois plus tard. Au moment de l'attentat, on était en train de finaliser le livret de messe, de sa messe de mariage. La première leçon que je vois, c'est que les échecs, les blessures ont été précieuses pour tailler son âme d'élite. Parce qu'il a vécu beaucoup de souffrances, notamment, comme on dit aujourd'hui, des blessures d'enfance, avec le divorce de ses parents, le fait que sa maman était souvent battue. Et je crois que cela a suscité en lui une très grande compassion. Une très grande empathie et en particulier une indignation chevaleresque dès qu'une femme était en danger. Je crois que s'il n'avait pas vécu ces drames, hélas bien, bien fréquents, il n'aurait pas réagi de la même manière le 23 mars. Et si ça avait été un homme qui avait été en danger, il n'aurait pas réagi de la même manière. Mais depuis son adolescence, dès qu'une femme était en danger, du fait de ces violences conjugales dont il avait été témoin, c'était pour lui insupportable. D'autre part, son brio intellectuel, sa force et physique s'était heurté parfois à des échecs scolaires, militaires, un petit peu inexplicables. Et je crois que cela le rendait humble.
Et on a dit au début de l'émission qu'il a raté plusieurs fois Saint-Cyr et l'école de guerre.
Voilà, ouais. Cela le rendait humble. Et ce gars qui avait, d'une certaine manière, beaucoup de choses pour éclabousser tout ce qui l'entourait et pour briller, était extrêmement docile, humble. J'en ai vraiment été témoin dans la préparation au mariage. Et du coup, que nous n'ayons pas peur des échecs, des blessures qui peuvent tailler aussi des merveilles dans chacune de nos âmes.
Qu'est-ce que vous appelez une âme d'élite ? Ça veut dire quoi ?
Une âme qui tend à l'héroïsme et qui veut toujours aller au-delà d'elle-même. Arnaud avait assez régulièrement les sourcils légèrement froncés. Et il avait une soif de progression et de se relever quand il était tombé. C'est quelqu'un qui voulait faire toujours mieux, toujours plus. De fait, c'était un travailleur acharné, qui n'était pas particulièrement doué intellectuellement, et qui a réussi et acquis un brio à force de travail. Qui n'était pas, il n'est pas spontanément né avec des muscles, comme aucun d'entre nous, mais c'est à force d'efforts, d'exercices, de musculation, d'entraînement qu'il a acquis tout cela. Bref, c'est encore une fois une résilience, comme je le disais tout à l'heure.
Deuxième leçon.
La fécondité de son geste, je crois, illustre bien ce que je disais tout à l'heure, que ce mot du pape François... que le critère pour évaluer notre vie est avant tout ce que nous avons fait pour les autres. Parce que de fait, ce que les gens ont retenu de lui, c'est pas qu'il ait reçu...
Oui, j'ai pas cité toutes les médailles qu'il a
eues. Voilà, les médailles, les décorations, c'est pas surtout qu'il était...
Sur son cercueil, ouais.
Absolument, qu'il ait été major de l'EOGN ou de l'EMIA, qu'il ait eu un MBA ou autre. Ce que les gens ont retenu, c'est qu'il ait donné sa vie pour en sauver une autre. Et ça, ça nous met vraiment face à nos ambitions. Ce que Dieu retiendra de nous à notre jugement particulier, c'est avant tout notre générosité, notre charité, pas notre beauté physique, pas nos diplômes, pas ce que nous avons accumulé, mais ce que nous avons donné. Et c'est, je pense, pour nous tous l'occasion d'un bel examen de conscience. Enfin, l'itinéraire spirituel, en particulier un peu chaotique, dans des chemins de traverse loin de ou aux périphéries de l'Église catholique, et le fait qu'il était resté franc-maçon même au moment du geste du 23 mars, montre qu'une authentique conversion, et j'en suis témoin, et un héroïsme admirable peut s'accompagner de fragilité et d'erreur. Et c'est peut-être un peu rassurant pour nous tous qui tendons à la sainteté, mais qui, hélas, sommes des pécheurs quotidiens, moi le premier. Bref, que c'est pas un héros bisounours et absolument inaltérable qui nous est proposé, mais un pécheur qui voulait progresser et qui nous encourage à le faire à sa suite. Et puis, Arnaud, enfin, parlait beaucoup du ciel, de l'éternité. Il raisonnait, Marielle en témoigne, comme si le ciel n'était pas loin. Il y a une photo incroyable qu'il a voulu prendre quelques temps avant avec Marielle. Ils étaient en ascension au sommet du Canigou et au sommet, un grand arc-en-ciel. Là, il prend son chapelet, il tend sa main vers le ciel et l'arc-en-ciel avec ce chapelet et il dit à Marielle, prends ma main tendue vers le ciel avec ce chapelet. Ben, qui prendra une photo pareille ? Comme s'il voulait que toute son existence soit tendue vers l'éternité.
C'est-à-dire qu'il avait une foi absolue en l'existence de la vie éternelle.
L'existence de la vie éternelle et une existence vraiment catholique du Christ, de la Vierge, des saints, des anges et des démons. Il en parlait souvent et en particulier il était convaincu que le combat que la France vivait aujourd'hui contre le Covid, donc il n'a pas connu la Covid évidemment, mais contre la crise économique, contre l'islamisme, là pour le coup dont il était extrêmement sensible, était avant tout un combat spirituel. Autrement dit, il disait évidemment il faut de la cyberguerre, évidemment il faut du sentinelle, évidemment il faut tous les moyens humains, informatiques, techniques, militaires qui sont mis en place, mais il faut avant tout prier Saint-Michel-Archange. Parce qu'au-delà de ces islamistes et de ces menaces économiques, on a un combat spirituel qui se joue et des démons qui sont là. Et donc il faut prier Michel et les autres anges de nous libérer de ces saletés.
Alors on va finir en parlant un peu de la franc-maçonnerie. Je ne l'aurais pas fait de moi-même parce que je trouve qu'il y avait matière à parler de bien d'autres choses. Mais vous m'avez dit que c'était important. Donc Arnaud Beltrame, dans son itinéraire spirituel, a été franc-maçon. Voilà, il a été initié dans la Grande Loge de France et vous venez de nous dire donc qu'il ne l'avait pas complètement quitté en dépit du chemin de foi qu'il avait fait. C'est parfois l'objet de, j'en avais jamais entendu parler, mais si vous le dites, c'est que c'est vrai, de critiques profondes à son égard. On peut rappeler tout simplement que pour on va dire, l'Église catholique, il y a une incompatibilité entre le fait d'être un catholique convaincu, un chrétien convaincu et de faire partie de la franc-maçonnerie. Ça, je l'aurais fait pour vous, je l'assume. Qu'est-ce que vous voulez en fait préciser sur ce sujet ? Quel était, on va dire, peut-être le niveau de conscience d'Arnaud Beltrame ou pourquoi est-ce qu'il était rentré dans la franc-maçonnerie ?
Alors je crois qu'il était rentré en maçonnerie, et je le crois après avoir interrogé beaucoup de témoins, pour deux raisons. D'abord une curiosité intellectuelle authentique, avant sa pleine conversion, parce qu'il y trouvait une vraie nourriture intellectuelle. Deuxièmement, parce qu'il y avait très vite noué de belles amitiés, et de fait, il n'allait jamais à sa loge du coin, à Narbonne ou Carcassonne, mais à sa loge de Rueil-Malmaison, où il avait gardé de bons amis. Et il était resté en maçonnerie par amitié, sans du tout voir l'incompatibilité entre les deux appartenances sur lesquelles on l'avait trompé. Donc en maçonnerie, il était à la Grande Loge de France, il était dans une loge déiste, où on lui disait « pas de souci, tu peux être catholique et franc-maçon », et il ne m'en avait jamais parlé. Je vous avoue qu'il m'en aurait parlé, je lui aurais peut-être taillé un short, enfin sûrement, et je dois avouer qu'il avait une très grande confiance en moi, et je crois qu'il aurait quitté la maçonnerie. Et s'il avait bien compris ce qui ne lui avait jamais été expliqué. Donc il était vraiment dans l'ignorance de la nocivité, de l'incompatibilité. Et il était du coup resté surtout par amitié et par curiosité intellectuelle. Et de fait, il faisait des choses un peu catho dans sa loge, en prêtant serment sur l'évangile de Saint-Jean, en faisant des planches, donc les exposés maçons, sur les chevaliers templiers. Donc il était, grâce à Dieu, pas excommunié, puisque ne sont excommuniés que ceux qui le savent, qu'il y a une sentence portée contre les baptisés qui seraient adeptes de cette secte maçonnique et hélas occultiste. Et il ignorait d'ailleurs totalement la dimension occultiste et même proprement satanique de la maçonnerie. Et au final, je pense que cette...
Pourquoi c'est important de le préciser tout ça ?
Parce que personne ne le fait et qu'il est effectivement critiqué. Donc d'une part, et Marielle me le disait avec reconnaissance
Marielle,
récemment...
toujours pour rappel son épouse.
Son épouse, merci, me le disait, ben, d'une certaine manière, ça vous permet de parler de la nocivité de la franc-maçonnerie alors que peu le font aujourd'hui, pour les catholiques qui pourraient penser que les deux appartenances ne posent aucun problème. Et deuxièmement, effectivement, dans des milieux catholiques plutôt conservateurs, il a été assez critiqué et du coup une espèce de suspicion a pu le frapper du fait de cette appartenance de prime abord inconciliable.
Il y aurait certainement beaucoup de précisions à apporter, mais j'imagine que vous le ferez à l'occasion de bien des conférences, peut-être même qu'un jour vous écrirez un livre sur lui. On renverra à des lectures, et pour ceux qui ne comprendraient pas l'incompatibilité entre l'Église, le fait d'être chrétien et d'être franc-maçon, voilà, on a fait des émissions par le passé, on en fera d'autres, c'est un sujet délicat, mais c'était pas d'abord l'objet de cette émission. Avant de finir cette émission, donc vous donnez des conférences, vous en avez donné une, donc pour rappel à Toulouse, mais vous en donnez ailleurs, hein, j'ai cru comprendre juste avant l'émission, vous aviez été au téléphone encore pour dire que vous alliez aller en région parisienne, me semble-t-il. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est toujours important de faire vivre la mémoire des morts, surtout des morts qui se sont illustrés. Pourquoi, à votre avis, c'est particulièrement important pour Arnaud Beltrame ? Et pour la France, puisque dans le fond, on dit aussi que cet homme avait un grand amour de son pays.
Alors, je crois que c'est d'abord important et opportun pour compléter ce qui n'avait pas été dit jusqu'ici. Parce que la dimension militaire ou maçonnique de sa vie a été illustrée par de bons journalistes, mais cette dimension avait été occultée. Or, je crois que c'est la plus importante pour bien expliquer les motivations de son geste. Deuxièmement, il me semble que ça peut nous stimuler beaucoup dans la soif de sainteté et de courage et d'héroïsme. Et Dieu sait que le courage et l'héroïsme dans le monde confortable ou consumériste qui est le nôtre n'est pas d'abord la vertu qu'on peut rechercher spontanément. Et puis enfin, je pense que cela peut nous donner peut-être un intercesseur pour l'Église et de France, et pour la France tout court, pour notre pays qui est dans une situation objectivement préoccupante sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sanitaire, et un motif d'espérance, parce que je crois qu'en contemplant la beauté d'un geste, on quitte un petit peu la sinistrose ambiante et des tentations de découragement qui pourraient parfois nous séduire.
Eh ben merci Père Jean-Baptiste d'avoir fait un détour par nos studios pour nous parler de cet homme et nous le faire découvrir un petit peu plus au-delà du fait d'actualité. Vous renvoyez, il y a eu un certain nombre de livres qui sont parus, vous en conseillez deux. Arnaud Beltrame, Gendarme de France, c'est un livre de Christophe Carichon, paru aux éditions Le Rocher. Arnaud Beltrame, Gendarme de France, édition Le Rocher. Et Arnaud Beltrame, L'héroïsme pour servir, paru aux éditions Mareuil. Arnaud Beltrame, L'héroïsme pour servir, paru aux éditions Mareuil. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous appelez le standard de la radio, on se fera un plaisir de vous redonner le titre de ces deux ouvrages. Un grand merci à vous. Pardon, vous vouliez donner le site internet ? Allez-y.
Voilà, et donc il y a une petite vidéo qui est disponible pour tout le monde depuis le 23 mars dernier sur le site de l'Évêché aux Armées. Donc si vous tapez Arnaud Beltrame, Évêché aux Armées, vous aurez un témoignage de Marielle en particulier qui est d'une très grande beauté.
Merci beaucoup. À la technique Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.